Dictionnaire de la sagesse ancienne. Cette émission présente les idées fondamentales de la sagesse ancienne, qui comprend les traditions initiatiques du passé et les enseignements ésotériques modernes. Durant une heure, nous allons vous présenter quelques mots-clés et tenter de les définir pour vous. Bonjour David.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Alors, entrons dans le vif du sujet et tout de suite, j'ai trouvé dans le dictionnaire le mot « illusion ».
Alors, précisons que c'est un dictionnaire symbolique, illusoire, enfin...
On pourrait donner quelques titres d'ouvrages d'ailleurs dans cette émission de temps en temps qui pourraient aider ceux qui veulent approfondir ces sujets. Par exemple, il y a une compilation des livres d'Alice Bellet qui s'appelle Réfléchissez-y, et donc qui aborde comme ça tout un tas de thèmes, de notions, les unes après les autres. Et un peu comme un dictionnaire, on pourrait dire. Et ça a été publié à Lucy Struss. Hein. Donc, Réfléchissez-y, une compilation des livres d'Alice Bellet.
Ésotérisme moderne, hein. C'est ce qu'on entend nous par Alice. Hein,
oui, oui, Alice Bellet, Alice Bellet, c'est un auteur, c'est une auteure du XXe siècle. Hein, c'est début du XXe siècle. Hein. Donc, elle fait un peu quand même une compilation déjà elle-même des enseignements de l'hindouisme, du bouddhisme, de la chrétienté, enfin toutes les grandes traditions du monde en fait.
Alors, c'était le mot illusion, Olivier, qu'on devait.
Oui, illusion. Alors, illusion, c'est une maladie du mental, on pourrait dire, une déformation ou une. Déformation de la réalité telle qu'elle est perçue par notre mental.
Oui, alors de façon générale, c'est vrai que si on entend le mot illusion, en ésotérisme, on dit qu'il y a trois formes d'illusion. Hein. Il y a l'illusion mentale proprement dite, dont tu parles. Il y a l'illusion sur le plan émotionnel, qu'on appelle le mirage. Et sur le plan physique, on parle souvent de maya, toutes les formes de limitation qu'on peut avoir sur le plan physique. Et donc l'illusion proprement dit mentale, c'est vrai que c'est une, comme toute forme d'illusion d'ailleurs, hein, c'est un voile qu'on a, que la conscience a entre elle et la réalité. Il y a un voile. Hein.
Donc, alors revenons, quand tu dis sur « on a », c'est donc cette conscience que voilà, nous sommes au fond de nous-mêmes.
La conscience pure, à l'état pur.
Cet être profond que nous sommes, qui est une conscience avec un grand C, et qui perçoit la réalité dans ce monde, dans cette incarnation, dans cette vie, qui la perçoit de façon voilée, pas correcte. À cause donc de l'illusion qui voile donc l'activité du mental.
C'est tous les a priori d'ordre intellectuel qu'on peut avoir. Hein. Alors en général, on confond les mirages avec les illusions. Hein. Les mirages, il y a une origine émotionnelle, alors que dans l'illusion, c'est purement intellectuel. Hein. C'est philosophique, c'est scientifique.
C'est quoi? C'est des concepts, des paradigmes, des idées fondamentales liées à une société dans laquelle nous sommes, par exemple, et que nous prenons pour des réalités intangibles.
Voilà, par exemple, le fait que la science... Prenons un exemple. En France, on veut être très très sérieux, il n'y a pas d'organisme scientifique pour faire des recherches paranormales. Parce qu'on pense que c'est quelque chose qui n'est pas scientifique, alors que c'est bête. Il y a partout, il y en a par exemple beaucoup en Grande-Bretagne,
en Russie,
c'est scientifique, il y a des recherches psychophysiques, on peut appeler ça comme ça, ou paranormal, peu importe le mot, mais c'est pas considéré comme sérieux en France, alors qu'il peut y avoir il y aurait tout intérêt à faire des investigations, des démarches, des protocoles scientifiques, donc des recherches, on pourrait arriver à des conclusions fascinantes, très intéressantes. Eh ben non, eh ben ça c'était une illusion.
Donc c'est une illusion typique un
typiquement
peu française.
Mentale, voilà. C'est pas sérieux, c'est pas considéré comme scientifique alors qu'on peut faire des investigations scientifiques sur tout et puis n'importe quoi. Hein. C'est la démarche qui doit être scientifique. Donc on pourrait avoir des recherches, des instituts là-dessus. Ben non. Voilà, ça c'est purement illusoire. C'est mental, c'est un a priori, c'est quelque chose qui est jugé avant, qui est établi sur des principes faux. En fait, on peut même raisonner parfois correctement, mais à la base avoir des principes faux. Et on a l'illusion, par exemple, de ne pas du tout s'intéresser aussi à tout ce qui est du domaine de l'âme, à nier l'existence de l'âme. On peut aussi nier, sans avoir aucune preuve scientifique, l'existence extraterrestre. Hein? Alors qu'on y a pas, si on ne fait pas d'enquête sérieuse là-dessus, normalement la démarche scientifique ferait qu'on devrait prouver, avalider ou confirmer que quelque chose existe ou pas à partir d'un protocole et donc d'une recherche scientifique, d'une méthodologie. Si on ne fait pas ça, c'est un a priori, c'est une illusion, tout simplement.
C'est même pas scientifique en
Voilà,
fait.
c'est même pas scientifique, ça ne suit pas les critères scientifiques. Mais il n'y a pas que les scientifiques qui ont des illusions, on a tous des illusions en fait, hein. On a tous une forme de philosophie personnelle en fait de la vie. Et donc on peut avoir des illusions toutes faites, des choses établies comme ça, sur les hommes ou sur les femmes, quoique souvent c'est d'origine émotionnelle, hein, mais sur le monde, sur l'origine du monde, sur l'humanité, sur des choses complètement donc tronquées, fausses, hein.
Donc ça, c'est sur les grandes idées. Ça peut être aussi sur les pensées concrètes.
Tu penses à quoi?
Ben, je ne sais pas. Parce qu'on dit souvent que le mirage, justement, ce voile émotionnel, cette activité émotionnelle, se mélange avec l'activité mentale pour créer une sorte de, bah oui, de mélange de gadou dans lequel on baigne et dans lequel notre conscience s'enlise.
C'est plus, je pense que là, c'est plus le mirage proprement dit. C'est-à-dire que y a une, ça part du corps émotionnel, de notre vie affective, imaginaire. Et ça se revêt de pensées, de substances mentales en termes techniques, hein.
On va justifier des émotions par des pensées, par exemple.
Voilà. Mais c'est pas proprement dit une illusion mentale. C'est-à-dire ça, c'est un mirage qui est, comme tu dis, argumenté, on ratiocine sur ceci, sur cela.
Mais inversement, on peut penser certaines choses parce qu'il y a derrière des émotions qui se cachent, qui se dissimulent. Par exemple, la peur de manquer, enfin, ou l'idée que. L'idée que chacun doit gagner sa vie et que la vie est une lutte, que la vie est un combat, que la vie est une concurrence, que ça c'est des idées qui sont
Je comprends ce que
véhiculées
tu
et
dis.
derrière ça, bah, en fait, il y a quoi? Il y a la peur de manquer, il y a la peur de l'autre et que ça, ce sont bien des mirages.
Oui, alors on pourrait dire qu'on a un mirage à la base et qu'à partir de là, on peut parfois développer des philosophies tronquées. C'est-à-dire on part vraiment sur un développement mental, sur une forme d'argumentation qui est fausse, parce que là, on part d'une base fausse. Ça me fait penser à Platon parlait beaucoup à son époque de la rhétorique, de tous ces... qu'on utilise beaucoup aussi dans le domaine politique, hein. Le fait de savoir utiliser les mots, de présenter des arguments comme vrais alors qu'ils sont faux, enfin la manipulation mentale, c'est une forme d'illusion, hein. Alors plus on est instruit, plus on peut aussi l'utiliser correctement, enfin on est assez habile, mais c'est une illusion. C'est-à-dire quand on utilise d'une façon incorrecte le mental, ou alors quand on essaie de tout résoudre par le mental aussi, par l'intellect, l'idée que tout repose sur la raison ou même la science, hein, chez les types, on dit scientistes un peu, hein, ceux qui pensent que la science est le but final complet de l'humanité et que si on parle pas de bonheur, que la science résoudra tous les problèmes, etc., c'est une forme d'illusion mentale. C'est-à-dire qu'on surinvestit sa vie mentale au détriment du reste.
La vie du cœur, par exemple.
Voilà, la vie affective, ou même la vie spirituelle, parce que le mental, on dit en Orient, c'est le destructeur du réel, autant vers l'extérieur que vers le monde intérieur. Il peut nous isoler. Donc à ce moment-là, l'illusion peut créer une barrière. C'est pour ça que quand on est très intellectuel, parfois on a de la difficulté, à moins qu'on travaille sur une forme de philosophie abstraite spirituelle, hein, une philosophie religieuse ou spirituelle, on peut avoir de la difficulté à appréhender ce qui est au-dessus du mental inférieur. Et ça, c'est une forme d'illusion. C'est une barrière.
Mental inférieur, mental concret, donc.
Ouais, oui. Donc ça crée une forme de zone presque bétonnée. Alors on peut s'isoler de sa vie affective et même critiquer les gens qui sont sensibles, qui ont des émotions, ou les gens qui sont proches de la nature. On est un être presque trop culturel et plus naturel. ou plus du tout émotionnel. C'est une forme d'illusion, en fait. Ou alors complètement, c'est ça, s'isoler du fait mystique, religieux, de l'expérience spirituelle. Donc, on peut vraiment s'enfermer complètement dans une forme de prison mentale.
Est-ce qu'il y a des illusions collectives alors? On pourrait donner un exemple?
Je pense que, en politique, on pourrait dire que l'opposition entre capital et travail, c'est une forme d'illusion. C'est ancré
En
profondément
économie, oui.
en économie politique, hein, voilà. Ou alors la partition constante entre droite et gauche. Et on voit que c'est une illusion parce qu'on se rend compte que parfois un homme de droite et de gauche se présente et ils ont des idées tellement communes qu'ils sont obligés de se départager sur des points parfois arbitraires ou vraiment secondaires. Donc on voit bien qu'on est face à une idéologie qui est dépassée. Donc c'est une forme d'illusion, quelque chose
Les
de purement
idéologies
mental.
sont des illusions.
Pas toutes, ça dépend. Elles peuvent avoir des origines complètement émotionnelles ou alors être assez mentalisées en fait. Ça dépend toujours du niveau, hein. Mais dans le domaine religieux, on a beaucoup de problèmes de fanatisme. Ça, c'est d'origine beaucoup émotionnelle. Mais on parlait tout à l'heure du scientisme. C'est une forme d'idéologie scientifique, hein. L'idée de croire que la science est au-dessus de tout, que un petit peu, on a parfois en France, on a parfois une vision très française. On a un peu le regret, la nostalgie des Lumières, de la France. Qui brillait, qui apportait sa lumière dans le monde, etc. Ça, c'est une illusion mentale purement française. Une forme d'orgueil scientifique, hein, d'orgueil intellectuel. Ça, c'est une illusion purement française. Et il y a une forme, voilà, de nostalgie, du français, de vouloir retrouver un peu son statut, parce qu'à un moment, la France a eu un statut culturel fort, hein. On parlait même le français jusqu'en Russie, un petit peu partout. Voilà, la France avait vraiment un prestige intellectuel. Donc voilà, il y a une forme de l'orgueil intellectuel, c'est une forme d'illusion, l'arrogance. Hein, le fait de dévaloriser les gens, de les juger, parce qu'on est plus équipé mentalement, on est plus instruit, plus intelligent, entre guillemets.
Bon, ça peut être lié aussi au mirage, hein, parce que ça peut être une façon de se protéger soi-même.
Oui, on peut trouver après, c'est pour ça que c'est lié, hein, on peut avoir aussi. Y trouver des bénéfices secondaires d'un point de vue affectif, d'être admiré, aimé, ça c'est vrai, là à ce moment-là on touche le mirage. Mais on voit que mental et émotionnel, soit peuvent être complètement séparés, mais ils le sont jamais à 100%. Même chez celui qui est très isolé mentalement, on trouvera quand même des formes de mirage émotionnel. Mais parfois, les gens qui sont vraiment très très mentaux ont souvent peu de mirage. Peu d'illusions émotionnelles, mais on en a beaucoup au niveau mental. Et
Alors
l'inverse est vrai aussi.
comment peut-on travailler donc sur ces illusions, essayer de les dissiper peut-être pour donc le but ce serait de voir la réalité davantage comme elle est vraiment, hein?
Alors, contrairement au mirage, où là, il faut travailler, se servir de la lumière du mental pour observer, analyser, accepter, puis se détacher de ces illusions affectives, là, le seul moyen, c'est d'entrer dans le mental supérieur. Par la réflexion abstraite, l'abstraction par la méditation. Il faut entrer dans la lumière, il faut lâcher le mental et aller plus haut. C'est le seul moyen. C'est-à-dire de faire entrer une plus grande lumière, celle de l'âme, ou du monde des idées, du monde abstrait, faire entrer cette lumière dans notre mental inférieur.
Et de ce fait arriver à une sorte de détachement par rapport aux idées qu'on peut avoir, croire
Voilà.
avoir.
L'honnêteté du mental, en fait. Ne pas. S'identifier à une école de pensée, à une école philosophique, à un courant, se dire que c'est en fait forcément fragmentaire, culturel, isolé, et que la vérité ne peut pas s'enfermer dans des concepts précis comme ça.
Est-ce qu'on peut se dire aussi que la pensée n'est pas à nous, nos idées ne sont pas à nous, que en fait ce sont des formes pensées, des égrégores sur le plan du mental auxquelles on se relie avec notre corps mental, mais de façon non maîtrisée, non consciente, et que en fait on peut croire avoir des idées, mais en fait juste avoir capté une idée qui existe sur ces plans, comment dire, collectifs, et
On
est-ce
voit
que
ça beaucoup, oui, les communautés de pensée. Par exemple, dans les recherches scientifiques, quand certains scientifiques osent remettre en question, mais parfois des théories qui sont vieilles de plusieurs décennies, bah bonjour, hein. Ces scientifiques peuvent perdre leur travail, perdre leur investissement, ils sont mis au ban de la communauté scientifique, etc. Voilà, on voit, par exemple, Einstein, il a dû lutter même face à ses professeurs, pour imposer ses idées, alors que maintenant, même si on essaye un peu de remettre en cause la théorie d'Einstein, en gros, elle est universellement reconnue comme une clé de voûte de
Donc
l'astrophysique.
ça veut dire que tous ces scientifiques qui rejetaient au départ la nouvelle découverte, hein, que ce soit Einstein ou celle de Galilée ou de Copernic, eh bien ces scientifiques en fait se raccrochaient à une sorte de forme pensée existante, un égrégore de ce que le commun pense, et puis étaient persuadés dur comme fer que cette forme pensée était la réalité, et donc que la découverte était quelque chose d'erroné.
Il y a un exemple très, très amusant en pédiatrie. On a dit pendant des années, alors ça changeait tous les 10-20 ans, il faut que les bébés se couchent sur le dos.
Oui,
Puis après, il y a eu
la mode inverse.
Après, c'était sur les côtés. Puis après, c'était sur le ventre. Puis on est revenu sur le dos. Et on est bien là face à une illusion scientifique, une illusion mentale. En fait, voilà, c'est des bouts de vérité. Et en fait, il faut concevoir le mental comme un appareil qui saisit une partie de la vérité, mais la déforme forcément. Donc, à un moment, pour aller plus loin, si on est vraiment à la recherche de la vérité, il faut dépasser le mental inférieur, essayer de saisir, d'entrer dans le monde abstrait, dans une lumière plus grande. C'est comme ça, à mon avis, qu'on se libère au fur et à mesure de ces illusions, on se détache mentalement, en fait. Olivier, un mot qui revient souvent, qu'on utilise souvent, c'est l'incarnation. Être incarné. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue ésotérique d'être incarné? Parce que tout le monde est incarné en fait. Mais quel sens ça a?
Tout le monde est incarné, mais tout le monde n'en a pas la connaissance ni la conscience. Et a perdu de vue, et la plupart des gens ont perdu de vue le fait qu'ils sont des êtres incarnés. C'est-à-dire qu'ils s'identifient à cette partie incarnée, qu'ils s'identifient à ce qu'ils voient, donc au côté incarné d'eux-mêmes.
Incarné, ça veut in dans
La carne, dans la.
carna, la
Oui,
chair, hein,
dans la
dans
chair,
la
voilà.
chair, hein, c'est dans la chair, hein. C'est prendre un corps en fait.
Prendre un corps, voilà. Alors donc le corps, ce qu'on étudie en ésotérisme, c'est que le corps est non seulement composé d'une partie physique, on peut sentir, voir, toucher, mais aussi d'une partie alors éthérique, qu'on appelle quelquefois aussi une partie comment dire, vibratoire
Subtil,
subtile, oui.
pranique.
Donc dans ces corps éthériques. Dans cette matière éthérique, ce corps éthérique fabriqué de matière éthérique contient ce qu'en Chine on connaît bien hein, avec la médecine chinoise, donc les méridiens d'énergie, les chakras. Hein, donc
Chakra, c'est
c'est
indien,
indien,
mais ils
ouais.
ont des dantiens, hein, des foyers d'énergie.
Ouais. Et donc cet ensemble physique, alors composé de plusieurs plans, hein, puisqu'il y a le physique solide, le physique
Liquide.
liquide et le physique gazeux.
Puis après,
Et puis
donc.
après, différents plans éthériques. Enfin, il y aurait en fait quatre plans différents éthériques, donc quatre niveaux vibratoires de matière éthérique.
Donc ça fait 7 avec les 3 niveaux en dessous, hein.
Voilà.
Gazeux, liquide, solide.
Voilà. Donc sept plans physiques, qu'on peut appeler physiques au total, hein, qui forment le corps physique. Mais au-delà de ça, nous avons un corps émotionnel, donc la matière émotionnelle vibre à un taux vibratoire encore supérieur à la matière éthérique.
Donc quand tu dis matière, ce n'est pas les atomes tels qu'on les voit, hein. C'est une substance plus subtile, hein.
Ben oui, c'est de la vibration, hein. C'est de l'énergie, on peut dire, mais tout est énergie, donc ça ne veut plus rien dire non plus. Mais donc même chose pour le corps émotionnel, on peut le subdiviser en différentes strates hein, correspondant à différents taux vibratoires qui vont du moins subtil au plus subtil. Donc on peut partir de l'émotionnel inférieur. On parle quelquefois de
D'astral inférieur
voilà
avec
d'astral
astral supérieur.
inférieur. Hein. Le mot astral souvent veut dire la signification, en fait, c'est émotionnel, hein.
Donc on aurait
Donc,
les émotions dans l'astral inférieur et les sentiments amoureux ou même mystiques, ou donc les idéaux, l'aspiration dans l'astral supérieur.
voilà.
D'accord. Et après, au-dessus, alors, on
Et
est
au-delà
encore
de ça,
incarné?
on a incarné dans un corps avec un corps mental. Et donc le corps qui nous permet de penser, de classer nos pensées, d'analyser les choses, de regarder ce qui se passe, de les comparer, etc.
Et qu'est-ce qu'il y aurait au-dessus du mental inférieur?
Alors au-dessus, il y aurait, bah, au-dessus du mental inférieur, le mental supérieur, dans lequel serait situé donc notre être profond, l'être qui s'incarne, qu'on peut appeler l'âme. On appelle ça le corps causal, hein, de l'âme, qui est fabriqué de ce mental supérieur, donc de cette matière d'où provient les intuitions, d'où provient la créativité, les idées fondamentales,
La
etc.
joie, l'amour,
Avec un
la
grand A,
conscience
un grand
pure.
J, oui. Donc l'incarnation, c'est le fait pour cette entité qui s'incarne, qu'on peut appeler âme, par exemple, hein, si on croit qu'il y a une âme individuelle, ou qu'on peut appeler transcendance ou divinité si on ne croit pas qu'il existe une entité individuelle qui s'incarne, hein, selon les traditions. Cette incarnation, c'est comment cette entité ou cette transcendance va agir dans le monde concret, dans le monde manifesté, dans le temps et dans l'espace.
Donc cette âme, si on garde ce vocable, s'incarne dans une personnalité qui est hein, composée donc c'est un ensemble composé d'un corps entre guillemets hein, mental, émotionnel et éthérique physique. Et on dit aussi que le soi, l'étincelle, l'esprit de Dieu en nous s'incarne dans l'âme.
Elle se réfléchit dans
Voilà.
l'âme.
Donc
L'âme, on dit quelquefois que l'âme est l'intermédiaire entre ce soi. Les théosophes disent le mot monade, hein, pour qualifier cette étincelle divine, en fait, qui serait, ben oui, une fraction évidemment extrêmement petite d'un grand tout qu'on pourrait appeler Dieu, si on va à l'extrême, hein. Et cette monade donc se réfléchit dans un intermédiaire qu'on peut appeler âme. Et qui elle-même s'incarne donc dans notre personnalité, et qui s'incarne et qui se réincarne, hein. C'est aussi la théorie de la réincarnation.
Alors voilà, si on s'incarne, alors soit on est dans certaines théories, bah, par exemple l'âme est reconnue par dans le christianisme, enfin dans les monothéismes, mais à ce moment-là elle va au paradis ou en enfer dans une forme de purgatoire, mais il n'y a pas forcément n'est pas reconnu le cycle des réincarnations. Mais en Orient, on a l'idée dans ces religions populaires donc d'une âme qui revient cycliquement. Hein? Donc là à ce moment-là on dit réincarnation parce que l'âme reprend le processus dont tu parlais tout à l'heure. Quand un fœtus se crée, bah, l'âme crée autour son corps, le corps énergétique, émotionnel, mental, et elle revient. Et l'idée, c'est qu'elle le recrée, elle recrée ses corps en fonction de l'acquis passé. Qui aurait on parle d'atomes permanents, hein, pour le mental, émotionnel et l'énergétique qui va créer le physique. Trois atomes germes permanents qui mémorisent. C'est une forme de pellicule. Hein. Qui stocke, mémorise les expériences passées et une forme de niveau vibratoire qui est reproduit, comme si on reprenait le fil d'une histoire, comme on raconte une histoire à un enfant, il dort la nuit, c'est le symbole de l'excarnation, hein. On meurt, on part, puis quand il revient, c'est comme si au petit matin on lui réouvrait l'histoire du livre et il reprend la lecture là où il en était. C'est un peu ça l'idée, hein.
Et le but de ça, de ce processus d'incarnation, de réincarnation, serait pour l'âme d'arriver à maîtriser totalement ces véhicules d'expression dans la matière, dans ces véhicules d'incarnation, les maîtriser totalement pour que ces véhicules puissent manifester la grandeur, l'absolu, le côté absolu, la divinité, on pourrait dire, de cette âme et de ce soi.
Donc la réincarnation implique l'évolution et la spiritualisation de la matière, en fait, c'est ce que tu nous dis. Est-ce qu'on peut être Olivier incarné éthériquement?
Incarné
Est-ce
éthériquement.
que voilà, est-ce que ça s'arrête forcément toujours sur le plan physique ou est-ce que on pourrait concevoir un être, une âme qui s'incarne éthériquement, qui s'arrête sur le plan
Qui ne
éthérique?
descendrait pas dans l'incarnation jusqu'au corps physique dense, tu veux dire. Oui, alors en tout cas sur d'autres planètes, hein, puisque on dit que dans ces. comment dire, dans ces enseignements-là, on dit que les autres, toutes les planètes sont habitées, en fait, mais qu'elles ne sont pas forcément habitées de manière physique dense, mais qu'elles peuvent être simplement habitées au niveau éthérique. Donc, d'êtres qu'on ne peut voir que si on a la vision éthérique. Donc, les voyants, hein, ceux qui voient les auras, par exemple, pourraient percevoir des gens, des êtres qui vivent sur des planètes dont la science ne reconnaît pas qu'elles sont habitées.
C'est ce qui surprend parfois dans les enseignements ésotériques modernes. Alors, on accepte volontiers l'union entre toutes les religions et autres, mais quand on parle d'extraterrestres, on ne comprend pas. On pense que c'est un truc assez moderne. On oublie qu'il y a eu des traces de contact et même dans les mythologies, de visites d'êtres venant du ciel, d'autres planètes, etc., jusqu'à des dieux qui portent le nom de certaines planètes. Mais donc, dans l'ésotérisme moderne, les deux sont reliés. Et en fait, donc, il y aurait des humanités qui s'incarneraient éthériquement, c'est ce que tu nous dis, sur d'autres planètes. Et les phénomènes ovnis, alors qu'est-ce que ça serait vis-à-vis de cette notion d'incarnation?
Bah, l'OVNI est simplement un véhicule dans lequel se déplacent ces êtres qui vivent sur les plans éthériques, mais qui sont, pour certains d'entre eux en tout cas, très évolués en termes de conscience, beaucoup plus avancés que nous au niveau de la technique et du savoir et de la sagesse, et qui ont la capacité, de manière temporaire, de densifier leur apparence, en quelque sorte, de façon à ce qu'on puisse la voir. Et donc c'est pour ça qu'on peut voir un ovni une fraction de seconde et puis il disparaît. Voilà, tout simplement parce qu'il reprend son taux vibratoire initial, qui est un taux vibratoire qui relève de l'éthérique et non pas du physique dense.
Donc leur corps, leur vie se placerait sur le plan de l'incarnation éthérique et transitoirement ils pourraient s'incarner en quelque sorte, se matérialiser, se densifier
Se laisser apparaître,
temporairement
oui.
à travers donc le plan gazeux, liquide et même solide. On pourrait donc les voir temporairement. Ils repasseraient après dans leur plan d'antimatière en quelque
Alors, c'est
sorte.
pas d'une manière générale tous les êtres qui habitent sur ces planètes, mais ce sont simplement ceux qui sont très évolués en conscience, un peu comme nos maîtres de sagesse, qui ont acquis la maîtrise de la matière et qui peuvent faire ça aussi, qui peuvent apparaître, disparaître, parce qu'ils ont acquis la maîtrise de cette matière, qui pour nous n'est pas encore maîtrisée.
Donc on peut passer, si on en a la maîtrise technologique ou spirituelle, on peut passer de l'éthérique au physique. Mais d'un point de vue ésotérique, les deux appartiennent au plan physique, hein. On a vu c'est une forme de physique dense ou de physique subtile, mais on peut passer de l'un à l'autre. Et donc si on résume, il y a nous sur Terre, on est incarné physiquement dense, enfin sur le plan physique dense, et il faut concevoir d'autres évolutions, même d'autres règnes subhumains, qui évolueraient sur un plan su uniquement. L'incarnation s'arrêterait sur le plan éthérique.
Après cette pause avec le mot poisson. Poisson. Alors c'est au pluriel. On parle des poissons.
Alors, on ne va pas parler de zoologie là, hein. On parle d'astrologie. Hein. On fait référence donc au signe zodiacal des poissons et aussi à la constellation sidérale. Et l'idée que le Soleil serait cycliquement, tous les 2500 ans, grosso modo, alors on dit 2160 ans, fois 12, hein, le Soleil serait soumis à l'influence d'un des signes.
Oui, parce qu'il met 26 000 années à
Voilà.
parcourir ce grand cercle dans les cieux qui le met en rapport plus avec une constellation qu'une autre, hein, tous les
Voilà.
2160 ans.
Et donc, selon l'ésotérisme, notre Soleil est sorti, sort progressivement et entre progressivement dans une nouvelle constellation, mais on sort d'une influence zodiacale qui était celle des poissons. Hein, c'est-à-dire que la constellation des poissons a influencé nos civilisations et nos cultures pendant environ 2000 ans.
Alors ça, c'est ce qu'indiquent les enseignements ésotériques. Alors quelle serait cette influence? De quelle nature?
Alors déjà, les poissons, c'est un signe d'eau, c'est un signe mystique, c'est un signe dans lequel on se fond. Hein, c'est un signe de fusion mystique, en quelque sorte, de mysticisme. Donc on a eu une ère très religieuse, en fait. Et on a vu, dans ces 2000 ans, l'importance qu'a revêtu les religions partout dans le monde. On a parlé de religions d'État, elles ont été au centre de la vie, elles ont décidé de l'éducation, de la politique, même des sciences. Hein. On a vu vraiment le poids que pouvaient avoir les religions. Donc ça, on
Et encore maintenant, dans le monde musulman, notamment.
Alors ça, c'est les reliquats qu'on a un petit peu partout, mais on voit qu'au fur et à mesure, ben, ça décroît et que la science est venue là-dessus. Il y a eu les sciences sociales, les sciences humaines de façon générale, qu'il y a eu l'art aussi s'est émancipé hein, du modèle religieux, parce qu'avant, l'art servait aussi la religion.
Oui.
Donc on peut voir qu'au fur et à mesure, ça décline de décennie en décennie. Et on a justement des formes de fanatisme qui sont les résultantes. Hein, la cristallisation de cette énergie. À la fin de chaque ère, en fait, on a une l'énergie est tellement saturée, mais on dit même jusque dans la pierre, en fait, hein, c'est-à-dire l'idée que vraiment, c'est pas quelque chose d'abstrait, hein, d'un point de vue ésotérique. On considère que les signes zodiacaux, c'est vraiment des énergies qui nous parviennent, qui rentrent dans nous, dans nos corps subtils, énergétiques, qui touchent la faune, la nature.
Donc il y a une influence sur l'être humain et sur les sociétés.
Et sur tout le vivant, et qu'on est donc saturé d'une énergie. Alors c'était un rayon. Le poisson a transmis sur les 7 rayons le 6e rayon, et on dit que c'est le rayon de dévotion et d'idéalisme. Donc on comprend d'un point de vue religieux, mais c'est aussi ce qui est à l'origine de toutes les formes d'idéologie, pas seulement religieuse, hein. Et les formes de fanatisme, c'est-à-dire une idéologie poussée à l'extrême, fanatisée en fait, hein.
Donc les idéologies politiques qu'on a connues comme le communisme ou l'extrême libéralisme sont
Des manifestations du
de cette
sixième rayon.
influence des poissons en fait, hein, de cette période-là.
Oui, toutes les formes de lutte.
On dit aussi que les poissons, c'est l'ère de l'individualisation, que l'homme s'est davantage considéré comme un être différent de celui du groupe. Comment dire, émancipé du clan, hein, on peut dire qu'il y a 2000 ans, hein, donc avant l'ère des poissons, au temps de Jésus, ben on dit que Jésus d'ailleurs a inauguré l'ère des poissons et que c'est pour ça que le signe des chrétiens c'était le poisson par lequel ils se reconnaissaient, hein, ils marquaient à la craie ou un signe de poisson sur leur porte pour se reconnaître entre eux.
Et on le retrouve aussi dans le bouddhisme, c'est ça qui est intéressant, le signe des poissons aussi. Hein, c'est intéressant de. Mais oui, en fait, c'est vrai toute la symbolique du
Et donc,
poisson associée à Jésus.
voilà, et donc il y a 2000 ans, l'homme se considérait plus comme membre d'une famille, membre d'un clan. Il avait un métier qui était celui de son père et de son grand-père et de son arrière-grand-père, etc. Et l'homme était.
C'était grégaire en fait, en
C'était
quelque sorte.
grégaire, voilà. Il se considérait pas je suis machin, mais je suis machin, fils d'un tel, et puis avec son métier, etc. quoi. Et donc, en 2000 ans, tout ça a vraiment disparu, globalement. Et l'homme se considère aujourd'hui comme un être différent, distinct de sa famille.
Alors les défauts de l'ère des poissons à ce niveau-là, c'est le fort individualisme, l'égocentrisme, l'égoïsme. Alors c'est la rupture du lien familial aussi, c'est tout un petit peu nos sociétés qui sont axées sur son plaisir personnel, son individualisme et un point de vue presque émotionnel, hein, affectif.
Et donc au niveau de l'économie, ça se traduit par la compétition, la concurrence, dans les écoles, par le système des notations, où on va mettre les élèves en compétition les uns avec les autres.
Plus, mieux, encore. Voilà, c'est un petit peu plus haut, plus loin, plus fort. Voilà, toutes ces notions-là, cette psychologie-là, c'est en fait, on peut dire les reliquats ou les marques distinctives d'une ère qui périclite et qui se cristallise. Donc ça, c'est un phénomène naturel qu'on a à chaque fois dans chaque fin d'ère zodiacale, et on a une nouvelle énergie. C'est ça qui est un petit peu difficile à vivre, c'est que on est saturé énergétiquement, culturellement, d'un point de vue sociologique par cette ancienne énergie, mais on a une nouvelle qui vient parce que l'ancienne décroît et l'autre croît, et cette nouvelle énergie, on ne sait pas trop quoi en faire, mais c'est une énergie, c'est celle de la constellation du Verseau. Hein, on va dans l'inverse, à l'envers, dû à la précession des équinoxes. Hein. pour ceux qui ne connaissent pas ce processus, hein, donc on va des poissons maintenant vers le Verseau. Et c'est une énergie de synthèse, de groupe, d'esprit de groupe, de fraternité. Et voilà, on apprend tout doucement, au fur et à mesure des décennies, là, à essayer de travailler avec cette nouvelle énergie qui est radicalement différente de l'individualisme. Hein. Ça, on peut le comprendre.
Est-ce qu'on peut dire, David, qu'il y a des gens qui relèvent plus de l'énergie des poissons et puis d'autres davantage maintenant de l'énergie du Verseau, et que ça crée une sorte de polarisation dans le monde entre ceux qui s'accrochent à une sorte d'ordre ancien,
conservateur,
très conservateur, ouais. Et puis d'autres qui cherchent quelque chose de nouveau. Et puis c'est pas facile parce qu'on sait pas quoi, comme tu disais.
Oui, parce que. Mais en fait, il y a des qualités et des erreurs dans les deux. Mais oui, on a en gros deux groupes comme ça qui sont en lutte. Mais ça, c'est un phénomène transitoire. Au fur et à mesure, quand on va avoir plus avancé dans les années et plus intégré cette énergie, elle va du Verseau. Elle va rentrer dans nos cultures. Et quand elle rentre dans les cultures, elle fait partie de la civilisation après. Hein. Mmh. Civilisation, c'est une forme de, c'est ce qui découle de la culture. Mais il y a d'abord des êtres qui vont incarner cette culture du Verseau, qui vont la démontrer d'un point de vue politique, scientifique, dans tous les domaines. Ils vont travailler dans cet esprit de coopération, qui est le contraire de la compétition, dans l'esprit de groupe, contraire du chef avec son leader, le chef leader avec son groupe mouton, un petit peu, hein, enfin un poisson, on dirait là. Donc on va avoir des méthodes de travail différentes et au fur et à mesure ça va rentrer dans la culture et au fur et à mesure je pense qu'on aura plus ce clivage qu'on a pour l'instant qui correspond bien aux deux natures d'énergie.
Vous écoutez le dictionnaire de sagesse ancienne et nous continuons aujourd'hui avec maintenant un nouveau mot, le mot initiation. Initiation, je vois qu'on est dans la lettre I un peu aujourd'hui. Initiation. Initiation. Alors, comment pourrait-on définir ce qu'on appelle l'initiation ?
Alors, dans l'ésotérisme, ça n'a pas le même sens que dans. J'ai envie de dire les groupes ou sociétés secrètes avec des rites initiatiques. On ne parle pas de la même chose, en fait, vraiment. On peut être initié à n'importe quoi. Hein. Initié, c'est entrer dans quelque chose, en fait. C'est débuter quelque chose. Hein.
Ah oui, initié, c'est débuter.
Initié,
oui.
C'est débuter. Hein.
Donc on peut être initié à...
Au tir à l'arc,
voilà.
Au bridge, et je ne sais quoi. Mm. Et donc dans chaque société secrète, il y a des rites initiatiques. On passe comme en maçonnerie, où on passe des grades, etc. Là, les initiations dont on parle dans l'ésotérisme, c'est des expansions de conscience qui sont universelles, qui font partie de la nature humaine, qui font partie de l'évolution humaine, j'entends. Et donc on les passe toutes, on passe ces paliers de conscience.
Donc ça fait... initiation égale un rapport de conscience, ouais.
Et en fait, ce sont des maîtrises successives. C'est le terme qui est beaucoup développé dans les ouvrages d'Alice Bailey. Hein. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle « Les rayons et les initiations » pour faire le lien entre les rayons, différents types d'énergie, et les initiations, ou « Initiations humaines et solaires », deux livres fameux d'Alice Bailey. Alors là, donc, bien sûr, c'est pas quelque chose qui a à voir avec une cérémonie extérieure, à l'appartenance à un groupe quelconque, mais ce sont donc des étapes de conscience. Alors, ce que l'on dit, c'est que ça a été symbolisé, Olivier, par les étapes de la vie de Jésus.
Mmh. Oui, on dit que la naissance de Jésus représente la première initiation, le baptême, la seconde.
La transfiguration, la troisième.
Oui, la crucifixion, la quatrième. Et la résurrection, la cinquième.
Voilà. Donc, les épisodes des évangiles symboliseraient ces étapes de conscience. Alors, on a aussi des étapes similaires dans le bouddhisme. On a les quatre étapes qui arrivent jusqu'à l'état d'arhat, puis la cinquième étape qui fait de vous un bouddha parfait, donc un Christ, l'équivalent d'un Christ ressuscité en fait. Et on en a donc dans les différentes traditions, mais l'idée c'est qu'elles sont vécues intérieurement et pas forcément en conscience, et elles correspondent donc à des maîtrises successives. L'idée que l'âme va maîtriser au fur et à mesure des cycles d'incarnation, donc il faut accepter le processus de renaissance, l'âme va maîtriser chaque plan, chaque corps. Donc chaque initiation marque la maîtrise qui n'est pas totale mais partielle d'un plan.
Donc la première initiation, ça marque le moment où l'âme maîtrise le corps physique de son, comment je vais dire, son véhicule d'incarnation. La deuxième initiation marque le moment où l'âme maîtrise en plus le corps émotionnel de son véhicule d'incarnation. On voit que déjà ça ne doit pas concerner beaucoup beaucoup de monde sur Terre. Troisième initiation, c'est le moment où l'âme maîtrise le corps mental. Non? Donc, maîtrise totalement le mental de ses véhicules d'incarnation. Quatrième initiation, c'est le moment où l'âme n'a même plus besoin d'être là. La personne peut directement refléter la monade qu'elle est, donc le soi, hein. On avait dit, hein, que lorsqu'on avait défini l'âme, que l'âme c'était une sorte d'intermédiaire entre le soi, la monade, c'est-à-dire l'étincelle divine, ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, et la personnalité, l'ensemble des corps d'incarnation.
Et c'est parachevé à la cinquième initiation, qui est une forme de consommation finale, en fait, hein. Il y a une maîtrise totale des différents plans.
Et à la cinquième initiation, on n'est plus, techniquement, on n'est plus un être humain alors.
On est un maître de sagesse. Donc on est vraiment initié, là, complètement, on est complètement entré dans l'évolution supérieure. C'est l'idée qu'il y a que l'initiation est une zone de transfert entre un règne et un autre. Là, en l'occurrence, le règne humain. Le règne spirituel, pardon. Et il y a des formes, alors on peut ouvrir le terme de radioactivité, hein, de rayonnement actif, semblable dans chaque règne, même s'il n'y a pas un processus initiatique, il y a une zone, une étape de transfert entre le règne minéral et végétal, c'est par la radioactivité proprement dite. Entre les végétaux et les animaux, c'est quand les végétaux, donc tout ça c'est fondé sur l'enseignement d'Alice Bellay, hein. C'est quand les végétaux créent des fleurs et émettent des parfums. C'est une forme de radiation qui est différente de la radioactivité. Et les animaux, c'est les animaux domestiqués, qui sont des formes d'initiés en quelque sorte, hein, du règne animal, proches de devenir des êtres humains. Hein. Et bien pour nous, c'est l'initié, c'est celui qui est proche de devenir un maître en fait. Il est proche, il est en train d'être initié, de passer dans le règne suivant, et il y a cinq stades bien
Donc
définis.
on s'incarne un grand grand nombre de fois, et à la fin de ce processus d'incarnation, on va franchir ces différentes étapes. Donc quand je dis à
Voilà.
la fin, c'est dans les dernières vies.
C'est
On sait
ça.
à peu près combien?
Alors on sait qu'avant de passer la première initiation, on est un aspirant, c'est-à-dire qu'on se prépare donc à cette fameuse maîtrise du plan physique et on voit tout l'intérêt porté au corps, à la santé, au régime. On devient souvent végétarien, on fait du sport, du yoga, de tout ce qui permet une forme de purification et de maîtrise physique. On fait des jeûnes, on fait toutes sortes de choses, on commence un peu la méditation. L'âme commence à essayer de prendre le contrôle de l'homme sur le plan physique. Donc là, il y a.
On se prend en main, quoi, au niveau
C'est
de son
ça.
corps physique, hein.
Ça prend plusieurs vies pour passer cette première initiation. Et il en faut beaucoup plus entre la première et la deuxième initiation. Symboliquement, c'est les 30 ans de la vie de Jésus avant qu'il passe le baptême, hein. On dit que c'est un baptême de feu et puis d'eau et puis d'esprit, hein, de feu. Là, la maîtrise des émotions, bah, c'est pas, ça se passe pas comme ça. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est pas donné à tout le monde et ça prend plusieurs vies pour réussir à placer sa conscience sur le plan mental, alors qu'avant elle était essentiellement centrée sur le plan émotionnel, la déplacer, la maintenir en permanence, et grâce à cette conscience mentale, à se débarrasser de ses mirages, c'est-à-dire de ses illusions émotionnelles. En grande partie parce que c'est jamais total.
Je crois qu'Alice Bellay parle de 17-18 vies, c'est ça?
C'est Benjamin Creme qui cite parfois jusqu'à 15 vies, mais en moyenne 7 vies, certains en font un petit peu moins. Ça dépend de la quantité de mirages justement qu'on a créé. Tout ce qu'on crée d'illusoire, il faut le défaire en fait, hein. Et puis après, par contre, c'était très très rapide. Il faut en général une vie pour arriver à placer sa conscience sur le plan de l'âme et donc à maîtriser son mental inférieur. Et puis après encore une vie pour accéder au plan intuitif et dépasser la conscience même de l'âme individuelle en fait, hein. Et une dernière pour dernière vie pour parachever tout ça et devenir un maître de sagesse.
Donc cinquième initiation. Donc en fait, les grands initiés de l'histoire, grands personnages historiques qu'on appelle des initiés, sont, s'ils sont vraiment des initiés, en tout cas, sont des êtres qui sont très proches de devenir maîtres de sagesse. Quelques vies.
Et ils marquent souvent, donc les initiés, ils marquent la culture mondiale. Alors, ce n'est pas des gens qui ont forcément un background, un savoir spirituel, ésotérique. Ils peuvent même être athées à la rigueur. Et ça, c'est une fausse idée que ceux qui rentrent dans des cercles ésotériques, qui passent des initiations, des cérémonies extérieures, tout ça, sont des grands initiés. On ne parle pas du tout de ça. Hein, on peut dire que Mozart était un initié. Donc, on le voit par son œuvre. Hein, on peut citer dans le domaine politique quelqu'un comme un Churchill ou un Abraham Lincoln, ce sont des initiés. Et on en a dans différents domaines. On a des disciples assez avancés, comme Einstein, dans le domaine de la science, forcément. Voilà, dans divers domaines, et on a bien sûr dans le domaine religieux, ça c'est évident, mais.
Donc des personnes dont l'âme a déjà un bon degré de maîtrise sur eux, quoi, hein, sur ces personnes, donc.
Alors, ce que l'on voit, c'est des qualités qui sont anormales, qui sont différentes, au-dessus de la moyenne. On a souvent chez ces enfants une précocité. On a des traits de génie. On se demande comment l'enfant a pu venir avec de telles qualités. Comment peut-il, si jeune, développer de telles qualités? Je pense à Mozart, hein, qui compose très jeune. C'est un exemple classique. Mais on a une vision assez large, une grande créativité dans leur domaine. Et voilà, on voit un initié pas à ce qui au groupe ou à ses lectures, mais on voit vraiment un initié à sa créativité, à ce qu'il apporte dans le monde. Et il y a souvent, toujours, même chez les initiés supérieurs, donc on parle initié surtout à partir de 3, hein, 3, 4, et puis 5, c'est carrément les maîtres, donc c'est ça les initiés supérieurs, on a toujours du détachement qui s'accompagne. Au fur et à mesure, on voit que quelque chose de supérieur domine ces personnes-là, ils ont un impact sur leur entourage. Et il y a vraiment cette notion de détachement, de distance face à la souffrance, face aux turpitudes, aux difficultés du monde, du
Déjà, il n'y a plus
courage,
de
persécution.
désir, puisqu'il y a maîtrise de l'émotionnel, donc il n'y a plus de désir,
Voilà,
de
c'est des.
peur.
Il y a une forme d'impersonnalité tout de même. Même s'il y a encore des défauts qui sont assez voyants, hein. Forcément, parce que ce sont des personnes puissantes, hein, qui ont un grand rayonnement, donc les erreurs sont aussi plus grandes, mais on voit vraiment une nette différence avec monsieur et madame tout le monde. Hein, c'est pas seulement une affaire de gêne et d'éducation. L'initiation, c'est quelque chose qui concerne vraiment le développement spirituel de l'âme en incarnation. Et on avait dit déjà une fois, quand on parlait de la constitution de l'homme, Olivier, qu'il y avait des atomes permanents. Hein? Des atomes germes.
Voilà, qui restait après la mort et autour duquel l'âme, l'entité qui s'incarne, allait créer le corps, les corps de la vie suivante. Et donc, grâce à cette mémoire des atomes permanents, on allait se réincarner avec le niveau de conscience qu'on avait à la fin de la vie précédente.
Donc plus on est avancé, plus on est initié, plus il y a une maîtrise, une pureté, une grandeur d'âme, hein, en quelque sorte, hein, chez l'individu. Donc voilà, l'ésotérisme déclare qu'il y a vraiment cinq étapes, elles sont universelles, tout le monde les passe, tout le monde est amené à devenir un maître aussi,
Et
c'est
tu avais
une.
dit aussi que tout le monde les passe, mais on n'en est pas forcément conscient. Ça se
Voilà.
passe la nuit, je crois, hein.
Ça se passe en tout cas sur le plan intérieur. Et
Quand on dort.
voilà, c'est un processus. Enfin, quand on dort, on intègre, parce que bien sûr, l'initiation, c'est on s'initie chaque jour en quelque sorte, dans le sens où c'est dans son service et dans sa méditation, mais surtout son service qu'on accomplit pas pour le monde, hein, que l'on progresse. Mais il y a tout de même une cérémonie intérieure, nous dit Alice Bailey, et qui nous fait passer vraiment d'un stade à l'autre. Mais ça, c'est. On dit qu'on est déjà initié à l'avance. Et lorsqu'on
On
reçoit
a le niveau
l'initiation,
qui nous permet de
voilà.
recevoir cette initiation.
Et quand on passe le cap, hop, on commence une sorte de nouveau cycle de vie. On n'a pas jamais deux initiations en une vie. Il faut parfois. Donc, on a vu plusieurs initiations, surtout pour les premières.
Plusieurs vies.
Plusieurs vies, pardon, pour
ouais.
passer d'une initiation à l'autre.
Alors, si des auditeurs souhaitent en savoir davantage, peut-être on peut citer le premier livre d'Alice Bellay, hein, Initiation humaine et solaire. Initiation humaine et solaire d'Alice Bellay, donc aux éditions Lucis.
Et Benjamin Crème aussi, qui a beaucoup popularisé ces notions-là. On trouve dans certains de ses livres, dans la mission de Maitreya, des listes avec des chiffres. Alors, c'est un peu surprenant pour le lecteur qui n'a pas l'habitude, mais on verra une liste d'environ 1000 personnes, si j'ai bonne mémoire, d'initiés, de gens très connus, avec le niveau d'évolution donné, et quelque chose dont on parlera, c'est...
Donc des personnages de l'histoire. Hein,
voilà.
Personnages...
Et on peut voir déjà qu'il y a des disciples du deuxième degré, du niveau 2, donc qui ont une maîtrise émotionnelle, hein, c'est qu'un chiffre, hein, c'est pour comprendre qu'ils ont une maîtrise émotionnelle, bah, c'est pas n'importe qui. D'un dernier mot, c'est un terme qui revient souvent en ésotérisme et pas qu'en ésotérisme, c'est le terme yoga.
Yoga, alors je suppose David que ça vient aussi du sanskrit. Yoga, ça veut dire union, je crois, c'est unir, réunir,
oui,
l'inférieur avec le supérieur.
C'est parfois traduit par atteler, comme un attelage, hein, astreindre. Parfois aussi, il y a une autre étymologie, on lui donne le nom comme contrôler. Donc il y a une notion en tout cas voilà, d'unir, de maintenir, de contrôler.
Donc c'est quoi? C'est une voie ou c'est une pratique?
Alors c'est une voie quand on l'utilise dans le terme générique. Hein. Le yoga, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs yogas. Donc il y a plusieurs façons de s'unir à sa divinité.
Donc il y a des pratiques différentes donc,
qui
vont avec les différents types de yoga.
Alors on pourrait croire qu'on est exclusivement dans un contexte indien, mais on peut voir que certaines religions peuvent être apparentées à un yoga particulier. Même de façon générale, on peut dire que les religions type christianisme sont du bhakti yoga. Ça veut dire un yoga de dévotion, de dévouement ou d'amour. Alors que quand on parle du mot yoga, on pense au yoga du corps.
Oui, c'est bon, de le hatha yoga.
En... Voilà. Il faudrait préciser en fait. Hein. Yoga en tant que... Donc Hatha, c'est souvent traduit par le yoga de l'effort, des paires d'opposés, des équilibres entre les énergies solaires et lunaires en nous.
Donc le yoga du corps, c'est une voie vers la divinité, en fait, vers retrouver sa source.
Voilà, c'est une voie où on est censé faire l'équilibre par un jeu de posture, de stabilité, de respiration. Il y a des pranayamas, un travail de maîtrise du souffle. Et c'est censé aussi, on dit parfois, préparer un autre yoga qu'on appelle le Raja Yoga, qui est là un yoga purement mental, qui est en fait un yoga méditatif. Un yoga de concentration, de visualisation, de méditation, un yoga qui était décrit par un fameux Patanjali, un sage très connu en Inde. D'ailleurs, un des livres les plus traduits de littérature indienne, c'est les Yoga Sutras de Patanjali. Et d'ailleurs, c'est peut-être le premier à avoir utilisé le mot yoga. En tout cas, le terme yoga, à la base, ça représentait ça, ce yoga-là. Bien que le hatha yoga soit très très vieux, semble-t-il. Hein. Il remonte à des temps très très anciens. Mais ce sont deux voies différentes. Donc on a déjà trois voies différentes. On a un yoga méditatif, on a un yoga qui est dévotionnel à travers des cultes.
Donc il y a aussi le karma yoga, c'est le yoga du service, qui consiste à dire qu'une voie d'évolution est importante hein, pour l'homme, c'est de se mettre au service des autres, en fait. Ou d'une cause ou d'une aide quelque part, et que c'est un moyen de croître en termes de conscience pour chacun.
Karma veut dire action. Et c'est en fait Krishna dans la Bhagavad Gita qui expose beaucoup ce yoga important. Donc c'est un yoga d'action désintéressée, de service désintéressé. C'est l'idée d'accomplir les choses sans en attendre le fruit. Hein, libère-toi du fruit de tes actions. C'est cette idée d'être dans un, de pratiquer le détachement, mais dans l'action, pas dans le renoncement au monde, dans l'isolement, dans un ermitage, mais vraiment dans la vie de tous les jours. C'est de devenir de plus en plus impersonnel et de servir et d'essayer de donner le meilleur de soi. Et c'est une façon de s'unir au divin jusqu'à s'identifier au fait que c'est presque la divinité en nous qui agit. Donc on peut faire ça en balayant, en faisant la cuisine, en allant à son travail, en élevant ses enfants. On peut se mettre dans cet état-là de l'action désintéressée, ce qui n'est pas facile du tout, hein. C'est facile à dire, mais à faire, ça l'est vraiment beaucoup moins. Donc si on résume, on a un hatha yoga, le yoga que l'on connaît, hein, postural, le yoga de la dévotion, le bhakti yoga, le raja yoga, le yoga méditatif. Là, on a parlé du karma yoga. On a après des yogas un peu plus techniques.
Le Laya Yoga, par exemple,
Voilà, le
le yoga
yoga
des énergies.
qui est beaucoup lié au Kundalini Yoga aussi, un yoga pour élever l'énergie serpentine, hein, l'énergie, la Kundalini du centre de la base, hein, du coccyx pour la faire circuler dans les fameux chakras, les fameuses roues d'énergie pour l'amener, l'éveiller. Donc c'est un travail sur les centres d'énergie.
Est-ce que chacun doit trouver son propre yoga ou bien on peut passer de l'un à l'autre?
Je pense que pour un occidental, le yoga le plus important, les deux yogas les plus importants, c'est le karma yoga, le yoga du service, parce que lui, tout le monde peut l'accomplir. Et sans danger, je dirais. Dès qu'on essaye d'être meilleur, d'être désintéressé, d'être dans l'action, le don, le service, on est sûr d'évoluer. Et peut-être le Raja Yoga aussi, le yoga méditatif. Il y a un autre yoga dont on n'a pas parlé qui est important aussi, que je mettrais parallèlement au Raja Yoga, c'est le Jnana Yoga. Jnana, ça a donné le mot gnose.
C'est la connaissance.
Voilà. C'est le yoga de la réalisation du soi, de la connaissance du soi. C'est un yoga, c'est pas une connaissance intellectuelle, c'est un yoga de détachement, en fait, de désidentification à tout ce qui n'est pas le soi. Mais là aussi, il faut un instructeur spirituel. Arnaud Desjardins a très bien fait connaître on appelle ça aussi le Vedanta, hein, cette forme de yoga, où on se désidentifie de ses sensations, de ses émotions, de ses pensées, pour s'identifier, vivre la conscience pure. Donc on voit vraiment que l'Inde a popularisé énormément de voies de yoga.
Merci David.
Merci Olivier.
Mais on se retrouve le mois prochain pour ce dictionnaire de sagesse ancienne.
Merci à tous, au revoir.
Bonsoir.